Amis du polar et du roman noir, c'est Onde Noire. Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne. Au sommaire ce soir?
Voilà, au sommaire, eh bien, des livres qu'on a bien aimés. L'annonce d'un festival en deuxième partie, et puis quand on reviendra après les infos, eh bien on aura le plaisir de retrouver Frédéric Prieux qui va nous faire une très longue chronique BD pour toutes les BD qu'on n'a pas pu dont on n'a pas pu parler en ce début d'année et qui enjoliveront, je l'espère, votre été. Mais tout d'abord un roman noir, très noir, qui s'appelle, c'est normal d'ailleurs, il est à la série noire. Il s'appelle L'Évasion. C'est un livre de Dominique Malotti, et comme je viens de dire, il est paru chez Gallimard, à la fameuse série noire. En gros, une question se pose. Une question que pose donc l'auteur Dominique Malotti. La littérature est-elle une des dernières solutions à la lutte politique et syndicale? Parce qu'en gros, c'est le thème majeur du dernier roman, et je précise tout de suite, dernier roman excellent, c'est presque un pléonasme, on va dire, avec Dominique Malotti.
Et dernier roman en date?
Et dernier roman en date, bien sûr. Pour asseoir son propos, l'écrivain français a choisi le contexte des milieux d'extrême gauche italiens. Et ceux qui ont choisi d'émigrer en France en arrêtant tout activisme politique, tout du moins dans les branches armées. L'auteur, elle est très habile parce qu'elle va choisir un personnage principal, qui ne fait pas partie de la mouvance des gauchistes italiens, mais un petit malfrat qui va se retrouver, malgré lui, dans la tourmente de l'histoire. Histoire avec un petit H, histoire avec un grand H, en fait. Ce personnage, qui s'appelle Filippo Zuliani, il s'évade de prison, presque contre sa volonté. Franchement, c'est presque contraint et forcé. Et il va le faire en compagnie de Carlo. Alors lui, Carlo, c'est un rouge, un de ceux qui tentèrent de changer la société au début des années 70. Ils se séparent juste après l'évasion, et après quelques jours de cavale, il apprend la mort, il apprend la mort du prisonnier politique au cours d'un hold-up qui a mal tourné. Filippo décide alors de rejoindre Paris, et comme Carlo lui avait donné une adresse, eh bien il va s'y rendre. Il va y trouver Lisa, qui fut la compagne de Carlo, et qui a choisi l'exil depuis l'incarcération de celui-ci. Elle est méfiante, très méfiante, qui sait ce type qui débarque comme ça, alors qu'on sait que Carlo a été tué, comment, par qui. Méfiante, mais aussi le groupe d'Italiens dont elle fait partie. Mais quand même, elle va lui trouver un refuge chez une amie, italienne comme elle. Filippo, lui, il est perdu. Il est dépressif, on peut dire. Il n'arrive pas à communiquer, il ne parle qu'italien, on le rappelle. Il a un petit boulot de nuit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à écrire. Il va se mettre à écrire une histoire, son histoire. Contre toute attente, après ta traduction, enfin, avant traduction d'ailleurs, le manuscrit est accepté, traduit, et le succès est immédiat, mais foudroyant et énorme. Et là se pose la question, est-ce une fiction totale ou une biographie? En tout cas, le roman déchaîne les passions, aussi bien dans la presse italienne que dans le milieu des exilés italiens. Filippo, en gros, a ouvert une boîte de Pandore, mais tout à son succès, lui, il s'en prend pas vraiment compte. Les haines enfouies vont remonter à la surface. Les mensonges et manipulations politiques vont faire de cette histoire personnelle pratiquement une affaire d'État. Et pendant tout ce temps-là, l'homme, Filippo, lui, il ne fait que se consommer d'amour pour celle qui l'a hébergé, une certaine Christina. Comme à son habitude, Dominique Malotti dégraisse son récit pour nous livrer l'essentiel. C'est un roman court. Pas de fioritures, peu de digressions, un style faussement simpliste, mais travaillé à l'extrême, pour ne laisser transparaître que le propos plus important que les propos, le verbiage. Il y en a bien pas mal qui devraient d'ailleurs s'en inspirer. Et puis,
donc, on ne citera pas de nom?
Non, 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 bien sûr que non. Le propos, c'est en particulier ceux de quelques individus qui, il y a maintenant 40 ans, ça ne nous rajeunit pas, croyaient que, je cite, « le vieux monde craquait sous nos coups, nous vivions l'aurore d'un temps nouveau ». Mais nous n'avons pas su trouver les mots, les phrases qu'il fallait pour raconter le monde que nous étions en train d'inventer et pour entraîner tout un peuple dans l'aventure. 40 ans après, on est en 2013 et il ne reste peut-être plus qu'une chose à faire, écrire des romans. En tout cas, tant que des écrivains du talent de Malotti nous dessilleront les yeux avec leurs écrits, on peut quand même garder quelque espoir.
Voilà. Et pour ceux qui n'écrivent pas des romans, eh ben, ils peuvent au moins les lire.
Voilà, tout à fait. On reste en Italie,
On reste en Italie avec un nouvel auteur italien, dont De Noir, enfin, nouveau pour nous en tous les cas, parce qu'en fait, il avait publié déjà deux polars en français aux éditions Joël Losfeld il y a quelques années, et puis ma foi, on les avait ratés. Ces deux romans mettaient déjà en scène le héros de celui-là, qui était le flic Michele Ferraro, qui est inspecteur à Milan. En fait, on peut très bien lire ce roman, qui s'appelle donc, je vais le dire, Le matériel du tueur, sans avoir lu les précédents, même si c'est le même héros. L'auteur s'appelle Gianni Bondio, il est publié dans la collection Métayer Noir, et il est traduit par l'excellent Serge Cadrupani.
Un spécialiste de la littérature noire italienne, voilà, de la littérature italienne.
Voilà, et donc a ramené Biondio
chez
Métayer, et donc avec son nouveau roman. Alors bon, tout commence assez étrangement par l'évasion plutôt spectaculaire d'un petit truand. Tu en parlais tout à l'heure, une évasion. Bon là, apparemment, c'est quand même fait exprès. Un petit truand qui est quand même libéré par un groupe de mafiosos, puissamment armé, très bien entraîné. Donc il est libéré, mais pour ajouter au bizarre, tous les membres de ce commando, ou presque, aucun d'eux ne va survivre. Il s'avère assez rapidement que Toongo Hale, c'est le nom du jeune homme qui s'est évadé.
Très italien
nom. Non, c'est pas un italien. C'est pas un jeune homme non plus d'ailleurs. N'est pas un si petit truand que ça. La chasse à l'homme va être menée par la commissaire Elena Rinaldi, à qui on a adjoint son ex, qui s'appelle Michele Ferraro, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, sur une base assez simple, voire classique, Biondini réussit un super polar teinté de noir. Et pas seulement parce que le super méchant, Toongo, est érythréen.
Voilà. Ça y est,
merci d'avoir ri.
Oui, non, Philippe Harry
derrière aussi la vitre. Voilà. On se doute dès les premières pages que le super méchant est un dangereux
érythréen,
limite psychopathe. On voit bien que le rapport entre les deux flics va être tendu, et pas seulement par leur passé amoureux. Elena est dynamique, féminine. Elle est aussi docteur en histoire de l'art, ce qui est quand même, chez les flics de tous les continents réunis, c'est quand même assez rare, même dans les romans.
Même en Érythrée, je pense qu'on n'en trouve pas beaucoup.
Non, mais elle est italienne. Et Michele, le flic, lui, il est misanthrope, bougon, célibataire alternatif.
Toute la différence entre la finesse féminine et la muflerie masculine, c'est ça?
Voilà. Bon, mais quand même, il est bien. Voilà. Donc, à partir d'une situation assez classique, des personnages presque communs, quand même, sauf le docteur en histoire de l'art, Biondino va réussir à nous passionner avec, en fait, ce qui s'avère être un road movie, parce qu'ils vont poursuivre le mec dans toute l'Italie. Donc, on va voir une Italie assez grande vitesse, quand même. Mais on découvre, ou on redécouvre, les conflits entre les régions, les diverses régions, et Rome, la capitale. Il nous montre aussi le passé colonial de l'Italie, qui est un peu proche du nôtre aussi, et dont les répercussions, tout comme chez nous, ont encore des répercussions sur notre monde d'aujourd'hui. Mais en fait, le plus de ce roman, ce sont les personnages secondaires dans l'équipe de flics ou dans les truands qui donnent un vrai ton à l'intrigue. Il y en a un en particulier qui s'appelle Lanza. C'est un flic italien. Il travaille pour une agence européenne de police. C'est pas bien précisé. Et il a des dialogues avec le flic Michele qui sont, on peut pas s'empêcher de rire aux éclats, qui sont d'un surréaliste en plein milieu d'un roman noir. C'est assez étonnant. Ça fait quand même à chaque fois avancer l'enquête parce qu'en fait, comme il est flic, il a beaucoup de matériel, il réussit à obtenir des informations que les flics de base n'ont pas forcément. Alors Biondio a un véritable style bien à lui. Il est capable, en quelques phrases, de passer d'une narration presque poétique dans certains moments à des phrases d'une vulgarité assez étonnante.
Pas d'exemple.
Je donnerai pas d'exemple, mais quand il est cru, hein. Voilà. Tout en réussissant, en même temps, des scènes d'action, de poursuite ou d'introspection quand le flic rentre le pauvre tout seul à la maison dans son quartier de Milan. Donc, vous avez compris, on a beaucoup aimé. Et on vous le recommande sans la moindre réserve. Avec en plus un petit plus. J'ai dit en plus, un petit plus, ouais, c'est pas terrible ça. Il y a des scènes de bouffe, on est en Italie. Des scènes de bouffe et de repas que ne renieraient pas ni Camilleri, ni Salvo Montalbano. Je peux vous lire juste un tout petit extrait, rapide, de quelques lignes. C'est midi. Les employés du bureau alentour commandaient des salades fades et des mozzarella light. Elena était aux prises avec un cornet d'olive à la mode d'Ascoli, en attendant les pappardelles en sauce sanglier. Rien que pour ça, Ferraro, en d'autres temps, l'aurait dévoré de baisers. Maintenant, il se contentait de lui tenir compagnie pour le déjeuner. Voilà. Je ne dis pas ce qui se passe après.
Alors, cornet
aux olives, parce qu'en fait, les olives à la mode d'Ascola, ce sont des olives en beignet, avec une pâte à beignet et un mélange de viande, de bœuf et de porc.
Eh bien, il va falloir trouver est au milieu. La recette.
Et ça a l'air tout à fait délicieux, du moins si on en croit l'auteur.
Un petit peu de musique maintenant?
Un petit peu de musique. Eh bien, on reste avec un groupe italien. C'est un quartet de Francesco Bearzati. Le morceau qu'ils vont jouer, c'est Round Midnight. L'album s'appelle Monk and Roll, c'est un super titre, parce qu'en fait, ils reprennent des titres fameux ou moins de Thelonious Monk, et ils les mettent...
À la sauce rock and roll,
ils les
suppose.
Mettent pas tout à fait à la sauce rock and roll, mais en fait, ils jouent le thème du morceau de Monk et la ligne de basse d'un morceau de rock connu. Donc là, le morceau de jazz, c'est Round Midnight. Quant au morceau de rock, eh ben, vous le reconnaîtrez certainement dans 10 secondes.
We'll be right back.
Et voilà, donc, Francesco Bearzati, Round Midnight, donc. Il y a aussi, entre autres, là, vous avez reconnu, bien sûr, c'était une intro de Sting, mais il y a aussi du Queen, du Led Zepp, et des Stones, c'est un véritable délice.
Autour de Thelonious Monk.
Monk and Roll.
Voilà. Et donc, pour terminer cette première partie d'émission, l'annonce d'un des plus grands événements en France, littéraire évidemment noir, c'est le 16e Festival International du Roman Noir. Les gens disent le FIRN. Ça se passe à Frontignan. Les dates exactes, c'est du 24 juin, bien sûr, pardon, au dimanche 30 juin, mais le point d'orgue, le morceau le plus important, commence le vendredi 28 dans le début d'après-midi et se termine le dimanche 30 juin à Frontignan, sur la place de la Liberté, sous des arbres bienveillants, j'espère qu'on va avoir du beau temps. Eh bien, on va pouvoir rencontrer, dialoguer, même manger, avec une cinquantaine d'auteurs. Donc chaque année, Michel Gorgueilleff et toute la bande de Soleil Noir nous concoctent un thème particulier. Cette année, le thème, c'est « Affaires de famille ».
Voilà, et autour de ce thème, donc, voilà, ça arrange tous les débats.
La famille, ça peut aller jusqu'à la mafia, ça peut être la... Voilà, excusez-moi. On va voir...
La famille au sens large.
Voilà, la famille au sens très large. Et pour discuter de ça, ben, ils ont encore réussi à obtenir des auteurs de très très grande qualité, dont certains viennent pour la première fois en France, donc il faut venir les rencontrer. Donc la marraine, c'est Fred Vargas. On n'a pas souvent d'ailleurs l'occasion de la voir, car elle se déplace peu en festival, donc c'est l'occasion de discuter avec elle. Et puis, dans ceux dont on vous a parlé récemment, moi je voudrais surtout citer l'Écossaise Karen Campbell, dont le livre « Trottoir du crépuscule » m'a vraiment beaucoup intéressé. Et puis, il y a aussi Sandrine Collette, avec son premier livre « Des nœuds d'acier ». Thierry Crouzet, tu nous avais parlé de son livre, qui, si je me rappelle bien, s'appelle « La quatrième dimension ».
En théorie.
Ah pardon, « La quatrième théorie », mais c'est pour...
Mais il y a de la dimension aussi, évidemment, dans sa
et
théorie.
Et puis, des auteurs qu'on a un petit peu plus l'habitude de rencontrer dans la caravane polar, comme Jean-Hugo Pell, Marin Le Dain, Marcus Malt. Voilà, un plateau d'une qualité immense. Et encore une fois...
Mais il y a Sam Millar aussi, si je me souviens.
Ah, j'avais oublié l'Irlandais Sam Millar avec On the Brinks, son dernier roman. Et puis...
David Van revient-il cette année, il me semble bien.
Bravo, voilà, donc David bien. Van, c'est celui qui avait eu le prix Médicis il y a... 3 ans pour Second Island, et donc il en est à son 3e roman, toujours autour de la famille, et c'est, je pense, un des grands invités de ce festival. C'est un Américain qui parle beaucoup du Grand Nord. Voilà, et puis voilà, plein d'autres. Donc, vous avez tout le programme sur le site polar-frontignan.org. Venez nous rejoindre, venez boire un coup de muscat sec.
Avec modération, bien évidemment.
Bien sûr, venez découvrir des auteurs, et puis beaucoup de tables rondes, des événements, il y en a à foison, on va pas vous les citer, parce que il y a plein de choses, à plein de moments, à plein d'endroits différents. Il y a évidemment du cinéma, il y a évidemment de la musique, il y a de quoi manger, de quoi boire, voilà. Et une bonne perspective de week-end, voilà. Puis vous passez un peu à Montpellier. On se retrouve dans la deuxième partie d'émission. À tout de suite.